Bonjour, dimanche, les Françaises et les Français retourneront aux urnes pour élire les députés qui les représenteront à l'Assemblée nationale. Le deuxième tour aura lieu le dimanche 7 juillet entre les candidates et les candidats en lice. Toute cette semaine, en direct, de midi à 13h, nous recevons des candidates et des candidats des 5 circonscriptions de la Sarthe pour débattre des enjeux de la constitution de la prochaine Assemblée générale dissoute par le président de la République au soir des résultats des élections européennes. Est-ce que la majorité présidentielle conservera ses députés pour soutenir la continuité politique du président de la République ? Est-ce que le nouveau Front populaire unissant tous les partis de gauche parviendra à devenir une nouvelle alternative politique ? Est-ce que le Rassemblement national confirmera sa victoire aux élections européennes dans l'ambition de voir arriver sa tête de liste au poste de Premier ministre? Est-ce que les Républicains retrouveront autant de sièges après le séisme du choix de leur président de faire une alliance avec le Rassemblement national, décision à l'encontre de la posture de ses dirigeants qui n'y étaient pas favorables? Rappelons que le député est celui qui se fait l'écho des préoccupations qui touchent sa circonscription à l'Assemblée nationale. En lien avec les élus locaux, il se préoccupe de la situation économique, sociale et plus globalement de toute situation qui concerne sa circonscription. Les députés ont un rôle particulièrement important puisque ce sont les députés qui votent les lois. Ils peuvent donc émettre les observations et des propositions pour faire progresser la législation et améliorer son application. Enfin, les députés contrôlent l'action du gouvernement. Ils peuvent interroger directement les ministres, soit par des questions écrites, soit par des questions orales lors des séances à l'Assemblée nationale. Nous recevons aujourd'hui les 4 candidates et candidats de la deuxième circonscription Le Mans-Bouloir, qui comprend les secteurs Le Mans-Est-Campagne, Le Mans-Sud-Est, Le Mans-Ville-Est, Le Mans-Sud-Ouest, Le Mans-Ville-Est-Bouloir et Montfort-le-Génois. Marietta Caramoli, députée sortante du Parti Socialiste, investie par le nouveau Front Populaire. Samuel Chevalier, candidat de l'UDI. François Fèvre, candidat Les Républicains, soutenu par le Rassemblement National. Et Thomas Hubert, candidat de Lutte Ouvrière. Bonjour.
Bonjour.
Et merci d'avoir accepté notre invitation. Après une brève présentation de votre parcours pour que les électrices et les électeurs puissent mieux vous connaître, pourquoi êtes-vous candidat sur cette première circonscription? Et le tirage au sort a désigné pour commencer en premier Thomas Hubert, candidat de Lutte Ouvrière.
Oui, bonjour. Eh bien, écoutez, à Lutte Ouvrière, nous avons décidé de nous présenter dans 550 circonscriptions partout en France, parce que on veut dans ces élections s'adresser au monde du travail, aux ouvrières, aux ouvriers, aux employés, du commerce, du ménage, de la fonction publique, aux enseignants, bon, tous les travailleurs qui font tout tourner dans la société, hein, et qui sont victimes malheureusement de toutes les attaques du patronat et du gouvernement. Continuellement. On veut aussi s'adresser aux chômeurs, qui sont des travailleurs privés d'emploi par les patrons, et aux retraités, qui bien souvent ne touchent que 1000 euros de pension après une vie de labeur, un véritable scandale. Voilà, nous ce que on compte dire dans ces élections, c'est qu'évidemment, alors aucune voix pour les candidats de Macron, Macron dont de toute façon le mépris a tellement écrasé qu'aujourd'hui, bon, enfin, on voit dans quel état il est, j'ai même pas besoin de développer, mais on veut mettre en garde contre les gens et les travailleurs qui seraient tentés de voter pour le Rassemblement National, pour Bardella. C'est un danger pour l'ensemble du monde du travail. C'est un danger d'abord parce que de toute façon, sur le plan économique, il fera comme Macron. Il servira la soupe au grand patronat. Vous voyez comme déjà, il a repoussé au calendrier grec l'idée de revenir sur la réforme des retraites. Vous voyez comme il montre déjà patte blanche au MEDEF, etc. Et puis vous voyez comme d'ailleurs, il a réutilisé Ciotti.
Thomas Hubert, ça c'est la raison qui explique votre candidature, mais votre parcours personnel, vous êtes qui en quelque sorte?
Moi, je suis un enseignant et je me considère comme un travailleur, comme d'ailleurs tous les candidats de Lutte Ouvrière, qui sont finalement des gens dont la politique n'est pas le métier. Voilà.
François Fèvre, vous êtes candidat républicain, soutenu par le Rassemblement National. Votre parcours et pourquoi êtes-vous candidat sur cette deuxième circonscription?
Bonjour Jean-Yves, bonjour à tous. Donc moi j'ai 32 ans, je suis entrepreneur en Sarthe donc depuis 2021. Mon parcours pour faire très vite, donc je suis diplômé d'une école de commerce et d'une école de management de la solidarité. Je suis d'abord parti à l'étranger, à Madagascar et au Liban pour faire de l'humanitaire auprès d'enfants défavorisés. Et puis quand je suis revenu en France, j'ai travaillé dans les médias, donc chez RCF Vaucluse, et je suis venu en Sarthe pour diriger RCF Sarthe.
Voilà, RCF Sarthe qui a fait un communiqué disant que voilà, il n'y avait pas de lien entre votre appartenance politique et votre engagement politique d'aujourd'hui et à l'époque où vous étiez directeur de RCF Sarthe.
Je pense que comme vous, on est à chair de lapin, on est attaché à l'indépendance de la presse et donc de séparer les médias et la politique. Voilà. Entre-temps, j'avais aussi été directeur du service de la communication de Robert Ménard à Béziers. Robert Ménard, il a réussi à Béziers à unir les droites. Aujourd'hui, il n'y a plus de RN, de LR ou du DI à Béziers. Tout le monde est derrière Robert Ménard. Et c'est que ça, il a montré sa bonne gestion. Et aujourd'hui, il a son travail qui est reconnu. Donc moi, quand j'ai entendu d'abord la dissolution par Emmanuel Macron, je pense que comme tout le monde, j'étais surpris. Moi, j'avais parié sur 2025, mais voilà, j'ai perdu. Et après, j'ai vu l'annonce d'Éric Ciotti, président des Républicains, qui a appelé à s'allier avec l'Assemblée nationale pour l'élection, pour faire une grande coalition de droite face à la grande coalition du centre qui a montré son échec pendant des années, et face à la grande coalition de gauche dont on reparlera sûrement, qui est quand même assez scandaleuse, avec des fichiers qui sont candidats, avec le NPA qui est poursuivi pour apologie au terrorisme. Donc aujourd'hui, je pense qu'on est on essaie d'avoir une alliance qui soit la plus sérieuse possible pour montrer notre bonne gestion, comme c'était le cas dans les mairies qu'on dirige déjà.
Voilà, donc c'est la raison qui explique pourquoi vous êtes candidat. Alors, il y a une question que j'avais envie de vous poser. Vous êtes candidat Les Républicains, mais vous n'êtes pas encarté Les Républicains. Donc, la désignation Les Républicains, c'est le parti Républicain qui vous le donne, ou c'est vous qui vous le donnez
Non, c'est le parti. En fait, Éric Ciotti est toujours président.
Donc, c'est pas la fédération départementale.
C'est tout à fait. Oui, je sais qu'aujourd'hui, il y a un peu un imbroglio chez Les Républicains, parce que en fait, les cadres n'ont pas suivi Éric Ciotti, mais... Heureusement,
n'a pas suivi l'avis des cadres.
Oui, c'est ça. Ça sera du coup ce que va devoir décider plus tard la justice. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est que les électeurs nous suivent. Moi, ça m'intéresse plus que les cadres. Donc, c'est ça qui, Je pense que beaucoup de gens à droite rêvaient en fait de cette alliance.
Samuel Chevalier, vous êtes le candidat pour l'UDI. Est-ce que d'abord vous représentez la majorité présidentielle?
Je représente, bonjour d'abord.
Bonjour.
Samuel Chevalier, j'ai 53 ans, je suis chef d'entreprise à Parigny-l'Évêque et j'ai été maire de Rieudin et je suis actuellement conseiller départemental en charge de l'emploi, l'insertion et du logement. Je représente d'abord tous les citoyens qui veulent se rassembler pour ne pas laisser notre République aux mains d'idées irréalistes et extrêmes. Donc voilà, les personnes qui me soutiennent aujourd'hui sont connues, c'est la présidente de notre région, Christelle Morancet, le président de notre département, Dominique Lemener, il y a aussi le sénateur Jean-Pierre Vogel, et je suis soutenu également par l'ensemble des composantes de la majorité présidentielle actuelle, mais feu majorité présidentielle, parce que l'élection aujourd'hui, elle pose sur quoi? Elle pose sur ce qu'on va faire demain. Comment on constitue cette nouvelle majorité parlementaire qui doit gérer la France pour demain. Et donc la question qui est posée, c'est de savoir comment on fait pour se rassembler et éviter de laisser la main à des projets complètement irréalistes, à la fois portés par le bloc de l'extrême droite et le bloc du nouveau Front Populaire qui est en réalité mené par la France Insoumise.
Marietta Caronly, vous êtes députée sortante du Parti Socialiste, investie par le nouveau Front Populaire. Pourquoi souhaitez-vous poursuivre votre mandat de députée?
D'abord, merci de cette invitation aujourd'hui et aux auditeurs qui s'intéressent pour aborder un peu les sujets de cette élection un peu inédite, cette situation inédite qui effectivement nous amène dans une élection qui n'était pas prévue. Je me suis posé des questions, je le dis aussi, et en fait le soir même, il n'était pas envisageable de ne pas poursuivre dans un pays où aujourd'hui la majorité présidentielle, le président lui-même, a mis le chaos politique. Il n'y avait pas besoin d'une dissolution après des résultats européens qui portaient sur des sujets européens et pas nationaux. D'ailleurs, il n'y a que le RN qui a fait une campagne pas européenne, mais que nationale. Donc, pour voir un petit peu la vision européenne. Et puis, je dirais aussi, moi, je suis élue, je suis enseignante de formation, je suis mère de 4 enfants, et je repars au combat pour 2 raisons. D'abord, pour, avec responsabilité, dire non au Rassemblement national dans ce pays. Et puis de l'autre côté, construire et préparer l'avenir, parce que justement, il s'agit de préparer le demain, qui va être difficile, avec des hommes et des femmes responsables et qui ont envie de travailler en commun pour porter d'abord les priorités de nos concitoyens, parce qu'aujourd'hui les problèmes sont nombreux. Nos problèmes sont nombreux, on pourra en parler tout à l'heure, et c'est le premier combat. Donc je suis une femme de terrain, quelqu'un qui tous les jours se trouve dans les communes, dans les quartiers, en même temps aussi un travail concret au niveau de l'Assemblée nationale que nous pourrons aborder. Et je crois beaucoup à cette responsabilité qui est la nôtre aujourd'hui de préparer l'avenir.
Samuel Chevalier, concernant la deuxième circonscription pour laquelle vous voulez être député, comment se déroule d'abord votre campagne et que vous disent les habitantes et les habitants que vous rencontrez dans vos réunions publiques ou sur le terrain ?
Responsabilité, c'est le mot que j'utilise et que je veux porter. Et quand j'entends Marietta Caramanli qui dit « je veux être responsable dans ces élections », je voudrais bien savoir comment on peut être responsable en portant un projet irréaliste qui va amener des dépenses supplémentaires. Aujourd'hui, on a un budget contraint. Et aujourd'hui, ce que veulent entendre les gens, c'est quelles solutions on apporte. Donc moi, je voudrais savoir comment, Madame Caramanli, vous êtes avec cette idée de la retraite à 60 ans, d'aller vers les 32 heures, la 6e République, parce que c'est inscrit dans le programme du Nouveau Front Populaire, je l'ai amené avec moi, les 3% de gestion européenne qui ne seraient pas respectés, donc on abandonne la rigueur budgétaire. Annuler la réforme du RSA.
Samuel Chevalier, ma question est très précise, c'est que vous disent les habitantes et les habitants que vous rencontrez ? Je ne suis pas sûr que la question du déficit public soit une question qui revient sur les marchés. Ou alors je me trompe.
Si on peut aborder cela quand même, il y a 3 000 milliards de dettes. Alors on peut annoncer qu'on rase gratis des deux côtés, c'est ce que j'entends, voilà, c'est des gros projets mais qui n'apprendront rien, ce sont des réponses faciles. Aujourd'hui je pense qu'il faut continuer, tout simplement il y a deux axes très importants. Un, baisser les dépenses publiques. Deux, continuer à porter une politique pro-économie. Parce que si on ne baisse pas les dépenses publiques, on n'arrivera pas à créer des marges de manœuvre. Et les gens sont responsables, ils comprennent ça aujourd'hui. On ne peut pas entendre des dépenses faramineuses comme on entend de l'extrême gauche ou de l'extrême droite. Ça n'apportera aucune solution. Et aujourd'hui, pour continuer là-dessus, quand je dis une politique pro-économie, je dis simplement continuer à avoir un marché du travail plus fluide. Je dis continuer à agir comme on l'a fait, comme ça a été fait sur l'apprentissage, d'abord en région, puis au niveau national. On est quand même 3 fois plus d'apprentis aujourd'hui. Un taux de chômage qui est au plus bas depuis 25 ans. Donc on voit bien aujourd'hui que c'est en étant pro-économie, quand on écoute les actualités, quand un pays va bien avec son économie, c'est à ce moment-là que tout le monde va mieux et qu'on peut travailler sur le pouvoir d'achat.
Je pense qu'on pourra en parler justement sur le thème du pouvoir d'achat. Vous, Thomas Hébert, vous êtes le candidat de Lutte Ouvrière, voilà, vous menez campagne sur le terrain, comme tous les candidats et comme toutes les candidates. Qu'est-ce qu'on vous dit sur le terrain ? Qu'est-ce que vous entendez ?
Nous, on entend les préoccupations du monde du travail, hein, très clairement sur les salaires. Alors, voilà, les autres candidats, qui d'ailleurs sont des patrons hein, pour beaucoup d'entre eux, hein, en face de moi, évidemment, c'est pas ça, si vous voulez. Mais la réalité du monde du travail, c'est des salaires insuffisants. C'est on peut plus se chauffer l'hiver. C'est on n'a plus de quoi remplir le caddie. On n'a même pas de quoi remplir le réservoir de la voiture pour aller bosser. Voilà la réalité. Voilà ce qu'on discute nous avec les travailleurs. Alors évidemment, bien sûr, il y a le discours du gouvernement, blabla, les dettes. Mais nous, ce qu'on voit, hein, c'est que il y a des fortunes qui n'ont cessé de croître sous le gouvernement Macron et d'ailleurs aussi sous les gouvernements de gauche avant. Bernard Arnault, 200 milliards d'euros. Les profits du CAC 40, rien que l'année dernière, 145 milliards d'euros.
Je suis désolé Thomas Hubert, mais je suis sévère avec ça. Ma question, c'est que vous disent les habitants sur le terrain ?
Est-ce
que
c'est vraiment... Ils nous disent ça, ils nous disent qu'eux, ils n'arrivent plus à vivre, et nous, on leur dit que l'argent, il y en a. D'ailleurs, cet argent, c'est leur travail qui l'a produit, et on leur dit qu'il faut qu'on s'organise tous pour se battre, pour récupérer cet argent-là.
Marietta Caramanli, voilà, on peut dire que la circonscription vous connaît bien puisque ça fait 17 ans que vous êtes la députée de la circonscription. Qu'est-ce que vous entendez dans cette campagne qui est complètement différente des campagnes précédentes ? On avait beaucoup parlé la dernière fois du pouvoir d'achat, de la désertification médicale, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous entendez dans les préoccupations de ceux que vous rencontrez ?
Alors ce qui se passe, moi je dirais effectivement sans évoquer les questions de programme, parce que je partage les problématiques qui reviennent de manière constante, qui sont des problématiques du quotidien, du pouvoir d'achat, du logement qui devient difficile, de fait qu'effectivement aujourd'hui il faut travailler plus longtemps pour avoir peut-être une retraite mais qui ne prend pas en compte la fatigue, la maladie, etc., le manque de médecins et tout. Et ces éléments-là qui sont abordés quotidiennement depuis très longtemps. Aujourd'hui, il faut le dire, il y a deux sons que j'entends sur la campagne. Je dirais même un troisième. Le premier que j'entends, c'est une mobilisation contre le Rassemblement national. Parce que on ne peut pas voir notre pays sombrer dans l'extrême droite. Nous avons vu les choix qui ont été faits dans d'autres pays, l'Italie ou l'Argentine, qui effectivement, le choix économique leur amène dans les difficultés. Ou d'autres qui ont choisi aussi l'autorité, l'autoritarisme, je dirais, autoritaire, un pouvoir autoritaire, et qui nous éloigne des libertés qui inspirent notre quotidien. Le deuxième son, aussi, je le dis de manière franche, vous me connaissez, j'ai siégé au groupe socialiste et apparenté. Et oui, le deuxième son, je l'ai entendu parce que des noms ont circulé sur le Premier ministre. Moi, je suis pour l'Union, je ne suis pas pour Mélenchon. Et aujourd'hui, d'ailleurs, c'était responsable, c'est qu'il l'a pris.
Vous êtes quand même avec
S'il vous plaît, je ne vous ai pas coupé. Mais non, Mélenchon, il n'est même pas candidat, alors on ne racontait pas n'importe quoi.
Il est quand même dans votre groupe.
Ouais, mais écoutez. Et les filles, oui. Alors, je ne vous ai coupé pas. Hein, donc, vous respectez un petit peu aussi mon temps de parole. D'accord ? Donc, en fait, donc, je l'ai dit, et moi aujourd'hui, je veux dire honnêtement, il faut être en responsabilité également avec les forces progressistes, les forces des gauches, les forces écologistes et humanistes pour faire en sorte que le pays puisse se gouverner demain.
François Fèvre, vous êtes donc le candidat républicain soutenu par le Rassemblement National. Comment se déroule votre campagne et qu'est-ce que vous entendez sur le terrain par rapport aux personnes qui viennent vous voir ?
Sur les marchés, c'est d'abord un ras-le-bol. Les gens veulent du changement. Voilà, c'est un mot qui fait souvent peur aux Français. Aujourd'hui, c'est un mot, ils veulent du changement parce qu'ils ne supportent plus la politique qui est en place. Et notamment, ils me parlent des 3000 milliards de dettes. C'est un mot qui revient assez souvent. Et du pouvoir d'achat. Donc, en fait, il y a une peur des deux côtés. On voit que c'est effectivement, comme disait tout à l'heure M. Hubert, la priorité, c'est aussi, ça va être de remplir son caddie, de remplir son essence dans sa voiture. Il me parle aussi beaucoup d'insécurité. Donc, comme quoi, c'est les thèmes qu'on va aborder. Donc, c'est pas les mauvais termes. Sur le fait que leurs enfants, ils ont peur pour leurs enfants quand ils sont le soir dans la rue, qu'ils ont quasiment tous un membre de leur famille qui s'est fait agresser en France. Ce sont les marchés, c'est ce qui ressort. Vraiment, les deux points, les trois points, ça va être dette, pouvoir d'achat et insécurité. Ensuite, on ne parle pas d'extrême droite. Ils sont souvent ravis que la droite soit enfin alliée à cesser d'être la droite la plus bête du monde.
Vous n'êtes jamais interpellé sur les marchés, justement, du fait que certains ont peur que le Rassemblement National arrive au pouvoir ?
Si, jamais.
Vous faites interpeller.
Donc pas dans les militants de droite. C'est plus dans les militants de Madame Caramoli qui ont peur parce que c'est pas le même. Effectivement, on n'a pas la même vision de la France et de la société. Et donc ça, on essaie de rassurer en même temps que j'ai du mal à voir en fait ce qui est extrême dans notre programme, ce qui est extrême aujourd'hui, c'est ce qui se passe en France. C'est notre économie et c'est notre insécurité.
Redonner du pouvoir d'achat aux Françaises et aux Français, c'est une promesse de toutes les formations politiques sans exception, en augmentant les salaires ou en bloquant les prix des carburants, de l'énergie ou des produits de consommation courante. Près de 18% des habitants de votre circonscription ont un niveau de vie inférieur au seuil de pauvreté, c'est-à-dire qu'ils vivent avec moins de 1 160 € par mois. Ceux qui gagnent un peu plus attendent aussi de vivre au mieux de leur travail parce que l'inflation a particulièrement entamé leur pouvoir d'achat. Quelles mesures économiques et sociales préconisez-vous pour améliorer le pouvoir d'achat des Français avec la contrainte du déficit? La France a été rappelée à l'ordre par la Commission européenne le 19 juin pour qu'elle apporte des mesures dans son budget 2025. On commence avec vous, Marietta Caramoli, puisque le tirage au sort vous a désigné. On rappelle que vous êtes la députée sortante du Parti Socialiste investie par le nouveau Front Populaire.
Alors oui, le pouvoir d'achat, effectivement, c'est le premier sujet dans tous les débats au quotidien. C'est effectivement la question de l'électricité, des prix, l'augmentation des prix de l'alimentation, le logement, l'accès au logement, mais aussi effectivement un logement de qualité et qui coûte cher, effectivement. Et puis la mobilité également, mais qu'on pourra parler un peu plus tard. Le pouvoir d'achat, c'est le premier sujet de nos Français et puis je dirais de notre pays et puis en fait aussi la question de où est-ce qu'on trouve des recettes, parce que pour faire des politiques de justice fiscale, justice sociale, justice, je dirais, environnementale, il faut aller chercher l'argent. Et il se trouve que dès 2021, moi, j'ai fait une proposition de loi et qui a été d'ailleurs travaillée avec Gabriel Zucman, qui est aujourd'hui le prix d'économie au niveau mondial, et qui finalement faisait quoi ? On voulait d'abord plus de justice fiscale concernant les grosses fortunes en France. Il y en a 500 qui paient 2% d'impôts. Et qu'aujourd'hui, finalement, avec une taxation de très très riches, à partir de 20 millions d'euros, déjà on a proposé à cette époque-là, effectivement on dégageait tous les ans 24 milliards d'euros. Ce qui permettrait d'investir à la fois sur le logement, à la fois sur l'école, à la fois sur la santé et sur désendetter. Et concernant le désendettement finalement du pays, il s'est aggravé, bien sûr, depuis 7 ans. Et 7 ans, il y a 7 ans, c'est qui est aux affaires ? C'est bien sûr le président Macron, mais c'est aussi le ministre Bruno Le Maire, qui effectivement aujourd'hui découvre qu'il y a un déficit colossal et qu'effectivement il a contribué à ce déficit-là parce qu'il n'a jamais voulu, ils n'ont jamais voulu, c'est un tabou, d'aborder la problématique de la justice fiscale. Ça, c'est vraiment la première priorité pour pouvoir redonner du pouvoir d'achat à nos concitoyens.
Samuel Chevalier, sur la question du pouvoir d'achat, comment on peut améliorer le pouvoir d'achat des Françaises et des Français, puisque c'est la priorité des priorités. Et en même temps, il y a une contrainte budgétaire pour le budget 2025, puisque la Commission européenne vient de sonner la sonnette d'alarme pour la France.
C'est pour ça qu'il faut...
Avec sept autres pays.
C'est pour ça qu'il faut être responsable. Il ne faut pas être irresponsable comme les projets qui sont présentés par les extrêmes gauches et extrêmes droites. C'est évident.
Alors c'est quoi être responsable ?
C'est laisser croire... Aujourd'hui, on laisse croire aux Français qu'on peut garder notre modèle et qu'il faut dépenser plus. À chaque fois qu'on dit qu'il faut garder notre modèle, il faut dépenser plus. Moi, je dis aujourd'hui, il faut travailler sur comment on fait des économies, même dans la dépense publique. Ce n'est pas un gros mot de faire des économies, c'est d'être rationnel pour pouvoir redonner... du pouvoir d'achat, c'est clair, d'un côté, et redonner à l'économie, parce que les choses ne peuvent aller bien que dans une économie qui va bien.
Alors, quelles économies on fait, justement ? Parce qu'il faut du concret,
Je prends un exemple, il y a des ministères, je prends les ministères de l'Éducation nationale. 45% des dépenses du ministère de l'Éducation nationale sont des frais de structure. Voilà. Donc, comment on fait pour peut-être avoir plus de présence, plus de services ? C'est possible, tout en faisant des économies sur les frais de structure. Aujourd'hui, on a dans nos dépenses publiques des choses qui peuvent être mises sur la table, regardées, travaillées. Et c'est ça le travail responsable qu'on appelle aujourd'hui. Parce que de rajouter de la dette dans un moment où on va être en fragilité sur les taux d'intérêt, on va vers quelque chose qui n'est pas tenable au niveau des budgétaires. Et il faut vraiment appeler les Français à la responsabilité.
Est-ce qu'on peut finalement faire des promesses aux Français pour améliorer le pouvoir d'achat ? Et est-ce que finalement, faire des économies sur certains chapitres, ça ne vient pas, parce qu'ils ont l'habitude, les Français maintenant, quand on parle de déficit de la France, on sait qu'il faut serrer la ceinture. Est-ce que finalement, ça ne va pas être compliqué, d'achat ?
On vit une période compliquée. Mais si je vous dis, par exemple, 2 euros d'économie sur les dépenses publiques, 1 euro donné au pouvoir d'achat, c'est des chiffres qui commencent à parler. Et c'est vraiment du gagnant-gagnant qu'il faut travailler. Puis on ne peut pas se passer de ceux qui créent la richesse dans notre territoire. Il faut vraiment garder un niveau de stabilité fiscale très maintenu, de façon à ce qu'on ait une économie qui soit stable et qui continue à aller vers une augmentation d'emploi, vers une baisse du chômage accentué. Et il faut continuer à avancer vers ça. Quand je vois que le nouveau Front Populaire veut revenir sur la réforme du RSA, je trouve ça complètement responsable. Je suis en charge, moi, avec les équipes qui sont les miennes, de la gestion des allocataires du RSA pour les emmener vers l'emploi et vers l'insertion. Et aujourd'hui, les mesures qui sont mises en place d'accompagnement, d'activité, comme il est dit, ou d'accompagnement vers l'emploi, en faisant attention à la personne, à son parcours, à ses besoins. Mais on est dans le droit chemin. Et je pense que de revenir sur des choses comme ça, c'est irresponsable.
Thomas Hubert, vos préconisations pour améliorer le pouvoir d'achat des Françaises et des Français, en étant dans une contrainte budgétaire.
Alors, juste pour rebondir sur ce que le monsieur macroniste responsable vient de dire, responsable en effet il l'est, mais il l'est vis-à-vis des riches.
Alors c'est Samuel Chevalier.
Excusez-moi, Samuel Chevalier. En effet, il est bien responsable vis-à-vis des riches. Et comment oser parler encore d'économie sur l'éducation nationale aujourd'hui, alors qu'elle est à l'os ? Pareil pour la santé publique, s'il vous plaît,
on dépense plus que d'autres pays et pour un service moindre.
Vous me laissez finir, je vous ai écouté. Bon, voilà, voilà, les gens qui nous gouvernent, ils continuent à demander aux gens de faire des économies, de serrer la ceinture, voilà, sous prétexte de responsabilité. Nous, on s'adresse au monde du travail pour dire, écoutez, regardez ces milliards qui coulent à flot hein, dans les caisses du patronat, ces milliards que le gouvernement engage pour réarmer, pour surarmer le pays, plus de 400 milliards, c'est honteux. Alors qu'on n'est même plus capable de se soigner. Bon, ce qu'on dit aux travailleurs, c'est qu'effectivement, il faudra se battre, il faudra se mobiliser. Ce ne sont pas les politiciens. Il faudra se battre pour augmenter les salaires. Le Front Populaire nous propose un salaire minimum de 1 600 euros. Mais même ça, c'est de la blague. Quand on discute avec les gens, tout le monde nous dit qu'il faut 2 000 euros minimum pour vivre. Même ça, c'est de la blague. Le Front Populaire nous dit, bon, il faut indexer les salaires sur les prix. Très bien. Nous, on défend cette idée-là aussi. Mais ça, faudra que les travailleurs l'arrachent. Et juste, je voudrais rappeler, et c'est aussi pour ça qu'on ne peut pas faire confiance aux candidats du Front Populaire de l'ensemble de la gauche. Parce que, je voudrais quand même rappeler que l'échelle mobile des salaires, c'est quelque chose qui existait avant. Et que c'est le gouvernement socialiste aidé par les communistes en 82 hein, qui a bloqué les salaires, justement. Alors, les salaires, hein, eux, ont été bloqués, les prix ont continué d'augmenter. Voilà. Voilà aussi pourquoi on peut pas faire confiance, hein, selon nous, au Front Populaire, parce que il défend aussi les affaires de la bourgeoisie. Il s'écrase toujours devant, finalement, la puissance de la bourgeoisie. On l'a vu sous Hollande, les lois travail qu'ont rendu encore plus pénibles, plus difficiles, hein, les conditions de travail pour les travailleurs. Et aujourd'hui, même Hollande ose se présenter. Non, franchement, c'est une blague. Je crois que c'est Aurélien Rousseau, l'ancien ministre de la Santé de Macron, se présente sur une liste du Front Populaire. Voilà. En face, il y a, même dans le Front Populaire, ce sont des candidats qui représentent les intérêts du grand patronat. Nous, nous disons aux travailleurs, ne faites pas confiance aux politiciens pour défendre vos intérêts. Il faut nous organiser, il faut faire le compte de ce qu'il nous faut et il faut qu'on se batte pour l'obtenir.
Merci François Fèvre, vous êtes le candidat républicain soutenu par le Rassemblement National. Alors, c'est quoi vos préconisations? Qu'est-ce que vous dites à ceux que vous rencontrez sur le terrain pour améliorer leur pouvoir d'achat, tout en prenant compte de la contrainte budgétaire du budget de l'État?
Oui. Effectivement, c'est deux questions qui sont liées. D'abord, on a coupé notre calendrier législatif en deux temps. Le temps d'abord de l'urgence, puis le temps de la réforme. Parce que effectivement, l'action du pouvoir d'achat est urgente. Donc, la première mesure qui sera passée sera la baisse de la TVA sur l'ensemble des produits énergétiques. Donc l'essence, le gaz, l'électricité, avec notamment la sortie de la règle de fixation des prix de l'électricité en Europe. Et pour pouvoir tout de suite, en fait, pouvoir remonter le pouvoir d'achat de manière directe. Après, c'est vrai que ça coûte de l'argent. Le gouvernement en place, centriste, qui a montré sa mauvaise gestion, est à 3 000 milliards de dettes. Et donc pour ça, évidemment, il faut qu'on fasse quelques économies qui ne seront pas des économies qui vont taper sur les Français. Donc pour moi, c'est finalement, on peut voir ça entre guillemets comme une chance en disant mais qu'est-ce que le service public et comment l'améliorer et remettre le service public vraiment dans son rôle, dans son vrai rôle. Donc il y a plusieurs possibilités là-dessus.
Alors d'abord, la question, c'est que le service public est dans son vrai rôle, c'est qu'il y a de moins en moins de services publics. C'est là la question peut-être.
Exactement. Et c'est là où justement il faut remettre de l'argent. Parce que en fait, c'est un choix, un budget. Je pense qu'ici on est plusieurs entrepreneurs. Quand on fait un budget, c'est un choix. C'est qu'est-ce qu'on met en priorité. Et donc typiquement, on voit que l'école va mal, on voit que l'hôpital va mal. Et donc par exemple, là, on va diminuer le nombre d'emplois administratifs, comme c'est le cas notamment en Allemagne, pour remettre des salaires dans les profs et dans les médecins et infirmiers, en augmentant leur salaire. Parce que c'est pas normal qu'on soit dans les professeurs.
Avez voté contre l'augmentation des salaires à l'Assemblée nationale.
Non, parce que
l'ORN a voté contre.
Oui, parce que c'est pas gratis.
Non, mais c'est pas gratis.
Si on augmente les salaires,
il a voté contre l'augmentation des bas salaires. Il a voté contre également la proposition de la réforme. Si, j'y étais. Donc moi, j'ai côtoyé effectivement.
Laissez-moi finir ma phrase, s'il vous plaît.
Vos amis, donc.
Ce n'est pas vrai. On n'augmente pas comme ça parce que évidemment, il faut être un peu responsable. Donc si on augmente d'un côté, il faut qu'on puisse avoir l'argent de l'autre. Donc ça c'est pas, c'est l'un va avec l'autre.
Pour rebondir, si vous me le permettez, par rapport à ce que vient de dire Marietta Karamouliz, c'est vrai, et voilà, c'est ce que dit l'information, et ce que disent les faits, c'est qu'il y a un certain nombre de propositions que le Rassemblement National fait, mais des propositions qui étaient à voter à l'Assemblée nationale n'ont pas été votées par le Rassemblement national. Est-ce que vous comprenez que ça puisse être trouble finalement pour les électrices et les électeurs?
Tout à fait, mais en fait, c'est là où je trouve qu'il faut aller plus loin. Typiquement, cette question des salaires, on ne peut pas augmenter par le SMIC comme ça, comme par magie, parce qu'en fait, quand on augmente le SMIC, on augmente aussi les charges salariales et les charges patronales. Et du coup, pour le patron, c'est risqué pour l'entreprise.
Il n'y a pas de magie, mais on ne peut pas faire la retraite non plus à 62 ans et puis être aux Républicains, avoir annoncé que ce n'était pas assez d'avoir fait 64 et maintenant de dire que c'est 62. Donc, il faut m'expliquer comment on fait aussi au niveau budget de ce point de vue-là.
Sachant que les Républicains voulaient 65.
Oui, du coup, on s'est mis d'accord avec le Rassemblement national. La retraite ne sera pas allongée, elle sera 62. Et donc, de nouveau, on priorise. Pour moi, faire de la politique, c'est se battre pour les plus démunis. Donc, les plus démunis, c'est qui? C'est les gens à la retraite, c'est les enfants, c'est les personnes âgées, c'est les personnes qui sont malades. Et donc, ces gens-là, c'est évidemment impossible qu'on coupe leur subvention. En revanche, il y a d'autres endroits qui sont coupés. Je crois qu'il n'y a plus de temps.
Autre priorité des Français, comment se sentir en sécurité là où l'on vit, ou comment, tout en répondre à un sentiment d'insécurité comme dans les campagnes. Fin janvier 2024, le président du tribunal judiciaire du Mans faisait état pour la Sarthe d'une hausse des actes de délinquance et du manque de moyens chroniques de la justice. Selon la procureure de la République, le nombre de crimes et de délits enregistrés en Sarthe en 2023 est passé à 28 000, soit 8 000 de plus en 10 ans. Votre circonscription est concernée par des faits de délinquance, essentiellement sur la partie du Mans. Tous les élus locaux d'ailleurs s'en saisissent et engagent une amélioration de l'environnement urbain tout en travaillant en coordination avec la police municipale et la police nationale. Quelles mesures préconisez-vous pour le bien vivre ensemble dans les quartiers qui sont affectés par des problèmes de tranquillité publique? Marietta Caramoli.
Alors, c'est un sujet préoccupant. C'est le sentiment d'insécurité aussi. Parce que dernièrement, un reportage montrait que dans la campagne, il y avait aussi plutôt un sentiment de sécurité, de choses qui ne se passent pas, qui se déroulent plutôt bien. Dans la situation de la deuxième circonscription, moi j'ai toujours plaidé pour une augmentation des moyens humains, police, gendarmerie. Et je voulais quand même rappeler que le gouvernement, votre gouvernement, Samuel Chevalier, parce que vous êtes quand même de la majorité présidentielle, il avait prévu
majorité parlementaire.
Voilà,
Pourquoi n'avez-vous pas voté la loi Lopmi qui promet 15 milliards de plus sur 5 ans pour les forces de l'ordre et pour la cybersécurité, avec 8500 policiers et gendarmes supplémentaires sur les 5 ans. Le groupe NUPES a voté contre et vous êtes abstenu sur cette loi-là. Comment vous pouvez dire que vous soutenez les forces de l'ordre?
Alors, les forces de l'ordre que je côtoie tous les jours, et je dirais effectivement ce qu'ils me demandent, et tous les syndicats y compris, c'est des moyens humains.
Donc,
c'était pas ça. L'OPNI, déjà, c'est toujours des annonces. C'est toujours des annonces pour l'avenir. Et quand on regarde le budget, l'exécution du budget tous les ans, effectivement, les moyens ne sont pas mis pour pouvoir recruter des personnes. Et sur le Mans particulièrement, j'insiste là-dessus, j'ai fait une comparaison de la délinquance au prorata de la population entre Marseille, Bordeaux et d'autres villes. Qu'est-ce que j'ai constaté? À Angers, il y avait 45 postes de police. À Cholet, qui n'ont rien demandé, ils ont eu 15 postes de police. À Chartres, 25. Et au Mans, 0. Je suis montée au créneau. Je suis allée voir le ministre. Et effectivement, il a dégagé 10 postes. Mais il manque encore une trentaine. Alors oui, il faut toujours être actif. Il faut aller chercher, effectivement, le gouvernement là où il ne fait pas. Et finalement, redemander aussi les moyens là où ils doivent y être. Je crois que les moyens humain, c'est la solution, c'est la réponse première nécessaire, plus tous les autres politiques d'éducation, de désenclavement finalement, et qui doivent
être agir. Est-ce que c'est partagé avec l'ensemble de vos autres partis dans l'alliance Nouveau Front Populaire, toutes ces questions de sécurité?
C'est partagé.
Qui veut désarmer la police, qui veut... Je pense pas que monsieur.
Je parle de moi, je parle de ce que je fais sur le terrain et que ce que j'obtiens sur le terrain.
Si on vote pour vous, madame Caramoli, c'est qu'on va avoir le nouveau Front Populaire au gouvernement avec des ministres de la France Insoumise.
Eh bien, le Front Populaire, je peux vous dire, il y aura des socialistes, il y aura des communistes, il y aura des verts, il y aura peut-être aussi d'autres forces demain.
Et des insoumis, vous pouvez le dire.
Et des insoumis aussi, bien sûr, parce qu'ils font partie. Donc ils font partie de l'alliance et je suis pas mécontente qu'ils fassent tous ensemble un effort pour qu'on soit ensemble demain à la responsabilité de notre pays et pas continuer avec Macron ou avec Bruno Le Maire qui effectivement il nous a mis dans cette situation là aujourd'hui.
Fabien Fèvre, sur la question François, excusez-moi, François Faible, sur la question de la sécurité.
Oui, donc moi c'est aussi un mot qui revient souvent sur les marchés. On veut mettre fin, je pense que c'est assez clair, que ce soit chez LR comme chez RN, c'est peut-être le point où il y a le plus de convergence. Mettre fin du coup par exemple aux peines planchers, notamment pour les récidivistes, pour ceux qui attaquent les forces de l'ordre, pour les trafiquants de drogue. Le trafic de drogue, y compris dans notre circo, est quand même un fléau qui s'aggrave de plus en plus. On a la chance en plus d'être en Sarthe où on est un département qui fait partie des plus privilégiés de France. Moi, j'ai grandi en banlieue parisienne. Je travaillais un peu dans le Vaucluse et dans l'Hérault où il y a des situations vraiment très critiques. On a quand même au moins un ou deux morts par an liés au trafic de drogue ou autre. Donc remettre de l'ordre dans nos rues et aussi à l'école, parce qu'on voit les profs se faire agresser. On voit en fait tout cette.
Alors concrètement, comment on fait pour remettre de l'ordre?
Et bien déjà, on cesse le.
Parce que ça, c'est un terme générique, mais comment concrètement on fait?
On cesse déjà le laxisme judiciaire, parce que le problème, c'est aussi la justice. Quand on voit, je parle avec des policiers qui m'expliquent qu'ils arrêtent des délinquants récidivistes, et le lendemain, ils les retrouvent dehors. Donc faut laisser les policiers faire leur travail, la plupart d'entre eux, la grande majorité d'entre eux font un très bon travail. Il faut ensuite permettre à ce que la justice puisse appliquer les peines, notamment avec les peines de. Il y a les peines de prison, qui sont celles auxquelles on pense en premier. Dans les peines de prison, il faut construire des nouvelles prisons. Pour ça,
il y a un problème avec les nouvelles prisons, vous le savez bien, les habitants n'en veulent pas chez eux.
Oui, mais pour ça, il n'y a pas un endroit en fait, où on a des casernes, par exemple, désaffectées.
Comme ils ne veulent pas le logement social d'ailleurs.
Ce que je dis, c'est qu'il y a pas mal d'endroits en France où il y a des prisons qui sont déjà qui ont été fermées qu'on peut rouvrir facilement. Il y a aussi des casernes désaffectées qu'on peut retaper en prison, ce qui s'est déjà fait dans d'autres pays. Et ensuite la prison, moi je suis pas pour le tout carcéral. La prison n'est pas forcément une fin en soi. Je pense notamment à toutes les personnes qui ont dégradé du matériel public ou privé. On a aussi là aussi c'est le principe du casseur-payeur où il faut faire remettre on va dire au boulot le casseur qui a dégradé pour qu'il comprenne une bonne fois pour toutes qu'il n'y a pas d'impunité. Voilà. Il y a un sentiment d'impunité chez certaines personnes qui doit être stoppé. C'est pareil à l'école où il faut donner un peu de pouvoir au directeur pour pouvoir aussi recadrer et au professeur pour recadrer tout ça. Grosso modo dans les grandes lignes.
Thomas Hubert, est-ce que la question de l'insécurité est une question qui préoccupe aussi avec des propositions lutte ouvrière?
Alors, moi je voudrais dire que en termes d'insécurité, ce que je voudrais mettre en avant, c'est que le monde du travail, il connaît l'insécurité. Les licenciements, le travail précaire, la peur du lendemain, ne pas savoir ce qu'on va donner à manger à ses enfants à la fin du mois. Ça, c'est aussi l'insécurité. C'est bien dommage que les candidats n'en parlent pas. Ils nous parlent de l'insécurité, la délinquance. D'accord, les incivilités. Mais ça, c'est quoi? Ça, c'est quand même le fruit des politiques qu'ils ont menées pendant des années. Pourquoi? Parce que on sait très bien que dans les quartiers sont de plus en plus ghettoisés. Pourquoi? Parce que le chômage se développe, le désœuvrement des jeunes se développe complètement, et parce que tous, la droite et la gauche, ont laissé ces quartiers populaires à l'abandon, complètement à l'abandon. Les écoles sont à la dérive, il n'y a plus de moyens pour les écoles, même on peut même plus se faire soigner. Voilà, donc ils ont laissé se développer des ghettos dans lesquels évidemment la délinquance se développe. Mais je voudrais mettre en garde tous les gens des milieux populaires qui pensent que le RN réglera le problème. Non, il ne réglera pas le problème. Ah oui, bien sûr, il lâchera sûrement quelques policiers en plus qui auront la gâchette facile. Il continuera à monter les plus pauvres les uns contre les autres en utilisant tous les préjugés possibles. Ça, il sait faire. Sauf que ça réglera en rien le problème. Il continuera de servir la soupe aux plus riches et les pauvres seront divisés entre eux. Nous, on dit, il faut que les pauvres s'organisent, défendent leurs intérêts, c'est comme ça, et se battent pour combattre le chômage en obligeant l'ensemble des patrons et du gouvernement à embaucher massivement. Voilà comment on pourra combattre l'insécurité. Mais je voudrais aussi dire quelque chose qui est quand même jamais dit en termes d'insécurité. Moi, je voudrais parler, vous savez, des migrants qui essayent de venir sauver leur peau en Europe. Rien que cette dernière année, il y a 2100 personnes qui ont trouvé la mort en Méditerranée. 6 par jour, quasiment. Et ben ça, c'est de l'insécurité.
D'encourager l'immigration.
S'il vous plaît.
Non, vous me laissez parler. Ce que je viens de dire.
6 personnes par jour trouvent la mort. Parce que, pourquoi ? Parce qu'en fait, la politique de l'extrême droite, elle est déjà mise en place avec cette forteresse Europe. C'est la guerre aux pauvres. On laisse crever les pauvres en Méditerranée. Tous les gens qui subissent déjà nos dirigeants, ils créent la guerre, ils entretiennent la misère dans les pays les plus pauvres, ils pillent l'Afrique, ils entretiennent les dictateurs. Et les pauvres qui essayent de tenter leur chance en venant en Europe, eh ben, on les accueille par la porte fermée, on leur claque la porte sur les doigts, on les laisse crever en Méditerranée. Ça, c'est l'insécurité.
Merci Thomas Hubert. Samuel Chevalier, sur la question du sentiment d'insécurité ou un problème de sécurité tout court. Les préconisations que vous, qui sont les vôtres dans votre programme.
Une agression par minute en France. Ça, c'est des chiffres. Sur 100% des peines, 42% sont des peines de prison. Et sur ces 42%, seulement 23% sont faites. Donc on voit bien le problème de la notion d'un pays plus violent, mais des peines qui ne sont pas forcément mises en place. Donc oui, moi je serai du côté des forces de l'ordre pour qu'on puisse amener l'ordre, parce que c'est très important. Je suis revenu sur la loi Lopmi avec un échange avec Mme Caramanli qui s'est abstenue, qui donne des moyens aux forces de l'ordre. Il y a aussi la loi de sécurité globale, où il y a des choses qui ont été mises en place, et notamment, je sais que vous, Madame Caramanli, vous avez fait un recours au Conseil constitutionnel contre ces lois, parce que vous avez attaqué l'article 24 qui disait qu'il ne fallait pas diffuser de vidéos sur les forces de police. Puis le Conseil constitutionnel vous a donné
liberté,
raison, mais je crois qu'il faut être...
Aussi.
Ça prouve l'attitude. Je pense qu'il faut avoir une attitude plus protectrice de nos forces de l'ordre. Ce sont des femmes et des hommes qui se donnent pour leur métier et qui sont dans des circonstances des fois pas faciles. Alors, dans le programme qu'est le vôtre, Mme Caramanli, vous souhaitez, avec le nouveau Front Populaire, supprimer les LBD, vous savez, les balles de défense.
Tout à fait. Et sont interdites aujourd'hui en Europe.
Alors,
il y a d'autres moyens de répondre.
Vous croyez que les policiers, c'est faire croire que les policiers appuient sur pour lancer des LBD de façon délibérée, mais ils le font les policiers sont des personnes responsables et je ne peux pas laisser dire ça.
Ils sont responsables, mais ils sont aussi dans une mode de réaction et de face à une manifestation, par exemple.
Oui. Mais vous savez combien il y a de blessés et de morts chez les policiers également.
Donc, bien sûr, de deux côtés. Mais les policiers eux-mêmes demandent aujourd'hui du matériel qui soit plus protecteur pour les.
Ils ne demandent pas l'arrêt du LBD. Je peux vous dire, j'ai discuté également avec eux. Ils ne demandent pas l'arrêt du LBD.
Ils sont très extrêmes.
En tous les cas, moi, ce que je voulais vous dire, c'est que moi, je serais partisan que l'ensemble des peines soient appliquées. Peut-être qu'il faut aller sur un système plus du nord de l'Europe où on voit bien que les peines sont peut-être plus faibles en durée, mais elles sont toutes appliquées. Et il ne faut pas aller vers des aménagements de peine et d'une société où on sait très bien que la plupart des peines ne sont pas appliquées. Donc comptez sur moi pour être un défenseur de l'ordre.
Comment on fait pour appliquer plus les peines alors ?
Eh ben, je viens de vous le dire, on prononce des peines plus courtes peut-être, mais applicables. Parce que les gens, quand ils ont des peines inférieures à un an de prison, ne font pas la peine aujourd'hui. Et ça, c'est inacceptable. Vous avez des forces de l'ordre qui arrêtent plusieurs fois, on l'a vu dans la presse, qui arrêtent plusieurs fois la même personne. Moi, je connais un artisan qui intervient sur quelques situations au Mans. Il se fait dépouiller son véhicule une fois, deux fois, il ne veut plus y aller. Donc, il y a des situations aujourd'hui où on voit bien qu'il faut travailler sur pas que ce sentiment d'insécurité. On est une société plus violente. On en est tous responsables. Il va falloir tous qu'on agisse pour aller vers une société plus apaisée.
Merci Samuel Chevalier. Entre 2010 et 2020, le réchauffement de la planète s'est largement dégradé et devient la principale préoccupation environnementale des Français. Parmi les principales conséquences du réchauffement climatique, une diminution de la disponibilité en eau et des rendements des cultures, ainsi que des risques accrus de sécheresse, de perte de biodiversité, d'incendies de forêt et de vagues de chaleur. Quelles sont vos propositions pour répondre justement à l'urgence climatique, Marietta Caramanli ? Vous êtes la députée sortante du Parti Socialiste investie par le nouveau Front Populaire.
Alors oui, effectivement, c'est une problématique qui est cruciale aujourd'hui et que certains veulent minimiser finalement le réchauffement climatique. Donc je pense que nous le constatons tous. Parmi les propositions, il y en a nombreuses, mais parmi les propositions, moi j'insisterai particulièrement sur une première question qui est de diminuer les taxes sur les énergies. Premier élément, qui joue aussi en même temps sur le pouvoir d'achat des ménages. C'est aussi la question de la transition énergétique et écologique de nos systèmes vertueux, de notre industrie, de notre économie également, parce que ça crée aussi de l'emploi dans ce secteur-là. Et enfin, j'insisterai aussi sur la mobilité. la mobilité de tous nos concitoyens aujourd'hui, d'investir plus sur des mobilités durables. Donc j'étais en cours de faire un rapport justement sur la mobilité, les mobilités durables, le train, mais ça veut dire que localement par exemple, je suis toujours militée sur les dessertes de la Sarthe et du Mans, sur le prix des trains aujourd'hui, qui c'est quand même contradictoire. Un mode aujourd'hui durable quelque part, parce qu'il est moins consommateur de CO2, et effectivement il est quoi? Il est aujourd'hui pas forcément accompagné sur le prix. Donc les prix augmentent, sont chers, et donc ça, du coup, ça amène les gens à prendre encore plus leur voiture pour se déplacer. Donc voilà, des politiques sur le transport, dans le logement, dans les mobilités et aussi dans l'environnement, qui concerne à la fois aussi l'alimentation, le mode agricole, mais aussi l'accompagnement des entreprises, des petites entreprises qui ont beaucoup souffert effectivement avec l'augmentation des prix.
Samuel Chevalier.
Et Madame Caramanli, sur le nucléaire, comment vous faites avec vos associés?
Je n'ai pas à répondre à votre question.
Voilà, c'est pour les électeurs que je posais la question.
Alors moi, le nucléaire, on est pour le mixte. Voilà, je l'ai déjà écrit, je l'ai déjà positionné. Il y aura des débats. Des débats, comme vous dites d'ailleurs, dans le Parlement, et une majorité qui sera dégagée pour faire en sorte que le mixte puisse se maintenir. Mais en même temps, on ne peut pas continuer, vous savez, sur le nucléaire. Il y a une question qui a été posée. Je plaide à ce qu'on fixe le prix carbone de la production d'énergie jusqu'à le déchet. Et donc là, effectivement, avec le prix carbone, on verra bien quels sont les systèmes les mieux protecteurs aussi de l'environnement, mais aussi également des risques qu'ils peuvent représenter.
Samuel Chevalier.
Sur le climat?
Oui, sur le climat.
Il faut des mesures de bon sens, continuer à aider les particuliers à œuvrer pour le logement et pour isoler leur logement. Il y a un vrai travail là-dessus, parce que forcément, quand on a des logements isolés, on a des dépenses énergétiques qui sont moindres et on dépense moins. On le voit dans les logements sociaux, quand on accompagne les bailleurs à refaire des logements, on voit bien aujourd'hui comme quoi le reste à charge reste plus important chaque mois pour les locataires. Et donc ça, il faut y travailler. Alors je pense que c'est une mesure en plus qui veut être remise en cause par le Rassemblement National, qui est très dommageable, parce que je pense qu'il faut continuer à aider les particuliers à vraiment isoler leur logement. C'est un des axes, à mon avis, les plus importants au niveau du climat, tout comme le reste, et baisser bien sûr les gaz à effet de serre, même si on a déjà bien démarré au niveau français avec beaucoup de normes et qu'on souhaite continuer sur les années qui viennent.
Sur la question du climat, François Fèvre.
Oui, moi je voulais parler de l'écologie en général, parce qu'il ne faut pas que le climat fasse oublier en fait les autres problèmes qu'on a sur les déchets, sur l'eau, la terre, l'air, c'est quand même là où...
Enfin,
là
tout
où
cela est très lié. Hein,
oui, bien sûr, mais c'est, voilà. je crois que c'est bien de le rappeler.
Participer au tri sélectif, c'est participer à aider le climat, etc., etc.
Et donc je voudrais saluer aussi tous nos techniciens et ingénieurs qui sont dans le public et dans le privé, qui font un travail formidable. On a vu dans tout ce qui s'est passé, je pense à un sujet qui est apolitique, on a vu donc nos rivières nos mers être moins pollués qu'avant, donc ça c'est quand même un point à souligner. Maintenant pour ce qui est de notre programme, c'est d'abord la relance du nucléaire, voilà, parce que les amis de Mme Caramanli, les Verts, ont sciemment détruit notre parc nucléaire, et donc à la fois c'est un problème écologique, mais c'est aussi un problème d'indépendance énergétique. Donc à la relance, tout ce qui va être les EPR, SMR, les réacteurs à neutrons rapides, ça c'est des choses on a aussi une vraie avancée là-dessus. Il faut aussi bien sûr investir dans les barrages hydroélectriques et sur développer l'hydrogène et la géothermie, qui sont une sorte de mix renouvelable qui n'est pas assez mis en avant. On parle beaucoup de l'éolien qui n'a pas toujours montré ses preuves, donc c'est ça qu'on voudrait mettre en avant. Il y a aussi un point très important pour moi, c'est l'agriculture, avec un point sur notamment la réciprocité des normes en agriculture. C'est pas normal pour, de nouveau d'un point de vue écologique, mais aussi d'un point de vue équitable en termes de concurrence, de faire venir des produits étrangers qui sont remplis de pesticides, alors que nos agriculteurs n'ont pas le droit.
Alors, question par rapport à ça, parce qu'elle est quand même extrêmement importante. On sait qu'il se passe quelque chose, enfin tout le monde l'aura remarqué, ou alors on ne vit pas sur la même planète. Il y a eu un mouvement des agriculteurs récemment qui se sont plaints effectivement de ces conditions-là. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que finalement on se dit bon, les produits qui dégradent l'environnement, la terre, etc., donc le climat, ben ça passe en second, ou est-ce qu'on en fait une priorité? C'est-à-dire, c'est la même question pour l'industrie, et c'est des questions que les Verts portaient il y a déjà depuis de nombreuses années. Est-ce qu'on produit, puis on climat, on verra après? Et la même question pour les agriculteurs, est-ce qu'on cultive et puis le climat, on verra après? C'est quoi la position du Rassemblement National concernant temps, les contraintes, justement, pour protéger le climat. Et quand je dis ça, que les agriculteurs et les agricultrices qui nous écoutent se rassurent, c'est évidemment pas contre eux, c'est un moment, on n'existera plus si le climat se dérade.
Quand on parle avec les agriculteurs, on voit que c'est pas tellement les normes environnementales qui les dérangent, parce qu'ils sont conscients, c'est eux les premières victimes, ils sont conscients que la terre, c'est aussi leur moyen de vivre, et c'est ce qui les fait se lever le matin. Maintenant, ils sont aussi là où ils sont verts, c'est de voir en fait, des produits étrangers qui eux ne respectent pas les mêmes normes. Et en fait, c'est là où en fait à la fois on les tue économiquement et à la fois on continue d'empoisonner les Français. Donc pour nous, la question c'est
alors comment on fait avec ces produits étrangers? On ferme les frontières à l'importation?
Non, pas à toutes, mais à ceux qui n'ont pas les normes les mêmes normes qu'en France, c'est on stoppe. Et en fait, la France est capable aujourd'hui d'avoir à la fois des produits eux-mêmes sains qu'on fait nous-mêmes et puis de faire venir des projets étrangers qui respectent les normes environnementales.
Thomas Hubert, sur la question de l'environnement et surtout du climat qui se dégrade.
Bah écoutez, ce sujet et les réponses des intervenants ici sont quand même révélatrices, qu'ils se placent, la façon dont ils se placent. Moi, je vais vous dire que la question du climat, comme de l'écologie en général, c'est l'illustration que la société capitaliste mène toute l'humanité dans le mur. Voilà, il n'y a pas de solution dans le capitalisme. Pourquoi ? Les vrais pollueurs, alors vous savez, hein, nous on nous dit de faire des petits gestes, éteindre le robinet, faire pipi sous la douche, etc. Mais les vrais pollueurs, c'est les trusts, c'est les Total, les Exxon, etc., qui non seulement polluent comme ils veulent, mais en plus nous imposent des modes de vie. Pourquoi est-ce qu'il faudrait qu'on se déplace tous en bagnole, à un par bagnole, au lieu de développer les transports en commun ? Parce que les trusts de l'automobile, les trusts du pétrole, contrôlent tout dans la société. Et pour ne prendre que l'exemple de Total, vous savez, en France, bah c'est Total qui commande, c'est Total qui donne ses ordres à Macron, c'est Total qui fait et qui défait les dictatures en Afrique pour piller le pétrole là-bas, c'est Total qui ravage des régions entières en Ouganda, quitte à déplacer les populations, etc. C'est Total qui exige que le gouvernement réquisitionne les grévistes de ses raffineries quand les grévistes se battent pour des augmentations de salaire, et le gouvernement s'exécute. Voilà, le problème est Total. Récemment, et à Pouyanné, a été écouté par une commission du Sénat qui s'est écrasée devant lui, parce que Pouyanné a dit, moi, je ne rendais compte qu'à mes actionnaires. Voilà. Le climat, ils s'en fichent comme de leur première chemise, les capitalistes. Ils sont prêts à foutre pour faire du profit en l'air toute la société. Et puis, je voudrais que... Alors, tout ça pour dire qu'il n'y aura de solution que si on libère, on exproprie l'ensemble des trusts capitalistes et qu'on libère l'humanité de la domination de ces trusts sur l'ensemble de la population. Et ça, il n'y a que le monde du travail qui travaille dans ces entreprises qui peut l'exproprier des actionnaires et les faire tourner justement pour les besoins de l'humanité et non plus pour faire des profits immédiats complètement aveugles sur l'économie.
Merci Thierry Hubert. On rappelle que vous êtes le candidat de Lutte Ouvrière. Nous arrivons déjà au terme de ce débat. Pour conclure, en une minute, quel est le point de votre programme qui vous tient le plus à cœur? Et on commence avec vous, puisque ainsi on a décidé le tirage au sort. François Fèvre, vous êtes le candidat Les Républicains soutenu par le Rassemblement National. Quel est le point de votre programme qui vous tient le plus à cœur?
Ça, c'est une très bonne question. C'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de points qui me paraissent importants. Je pense que c'est la réforme de l'État. Comme j'ai expliqué, donc, on avait mis deux temps importants. C'est d'abord le temps de l'urgence pour répondre aux problèmes urgents et puis le temps de la réforme. En fait, on voit qu'il y a des problèmes structurels, pas seulement conjoncturels en France. Et c'est donc réformer l'État pour que ce soit l'État soit le plus efficient possible et au service des Français.
Samuel Chevalier, vous êtes le candidat pour l'UDI. Quel est le point de votre programme qui vous tient le plus à cœur?
La responsabilité dans l'action et dans le budget. Parce que ces élections sont un grand moment de responsabilité. Il ne s'agit plus de calcul, et je m'adresse à vous les électeurs qui êtes auditeurs de cette radio, il ne s'agit plus de calcul, mais de responsabilité, même de dignité. Face aux deux blocs extrêmes, il faut se rassembler. La question qui est posée n'est pas de savoir si on est pro ou anti-Macron, mais comment on constitue la majorité parlementaire de demain. Donc j'appelle l'ensemble de ceux qui se reconnaissent et qui se définissent comme gaullistes, libéraux, sociaux-démocrates, voter pour un candidat qui protégera la République.
Marietta Caramoli, vous êtes la députée sortante du Parti Socialiste investie par le nouveau Front Populaire. Est-ce qu'il y a un point de votre programme qui vous tient particulièrement à cœur?
Alors, on l'a abordé, c'est le pouvoir d'achat, parce qu'il est beaucoup plus global. Et je dirais, entre l'extrême droite qui vote systématiquement contre toutes les mesures de justice fiscale, sociale et environnementale, et une majorité qui ne comprend plus, qui ne comprend pas les Français, mais il y a une alternative, celle d'une politique sociale et réaliste. Alors oui, sur le terrain, toujours, aux côtés de mes concitoyens, parce que l'enjeu aujourd'hui est celui de la démocratie et des libertés, mais aussi des politiques qui soient vraiment en proximité. Moi, ils n'auront pas besoin de prendre une permanence dans le sud de la France. Mes affiches sont claires, ils savent m'appeler, ils savent venir me voir et je porte leur message au plus haut niveau.
Thomas Hubert, vous êtes le candidat pour Lutte ouvrière. Quel est le point de votre programme qui vous tient le plus à cœur ?
Eh bien, faire entendre les intérêts du monde du travail. Demander aux travailleurs de faire un vote de conscience. Conscience que ce ne sont pas tous les politiciens de droite, d'extrême droite ou de gauche qui les ont trahis ou les trahiront demain à nouveau, qui défendront leurs intérêts. Ça ne peut être que eux, en fonction de leurs intérêts propres, sur leur lieu de travail, dans les entreprises, dans les quartiers, en s'organisant, en discutant et en préparant les luttes qui seront nécessaires demain. Et j'ajoute, si nous étions élus, nous serions justement les yeux et les oreilles du monde du travail à l'Assemblée et nous rendrions des comptes au monde du travail tous les jours de ce que nous entendons à l'Assemblée et ce que nous voyons.
Merci à vous de votre participation et de votre contribution au débat démocratique. Rappelons que les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h. Merci à Romain Alinan pour sa réalisation technique, à Robin Hulin, Brian Bellardan et Merlin Gravelot d'y avoir contribué. Demain, toujours en direct de midi à 13h, nous recevrons 4 des 7 candidats de la 3e circonscription. Éric Martineau, député sortant Modem, majorité présidentielle. Vincent Gruau, Les Républicains. Mathilde Jacques de la France Insoumise, investie par le Nouveau Front Populaire. Et Romain Lemoigne du Rassemblement National. Pour que vive la démocratie, dimanche, votez pour élire votre député. We'll be right back.